France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Un créateur qui se heurte à la dure réalité et une œuvre qui lui survit, c'est le thème du film L'Inconnu de la Grande Arche. Le réalisateur Stéphane de Moustier sera mon invité à partir de 13h. Et on garde nos bonnes habitudes avec cet exercice quotidien excellent pour la santé mentale, la critique éclairée évidemment. Aujourd'hui un opéra, Iphigénie en Tauride, mise en scène par Wajdi Mouawad et dirigé par Louis Langré et Théotime Langlois de Schwartz à l'Opéra Comique. Et puis un disque de la pianiste Vanessa Wagner qui a enregistré les études pour piano de Philippe Glass. Vous écoutez les Midis de Culture, on n'attendait plus que vous. Et les critiques du jour, je vous les présente. Emmanuel Giuliani, critique et journaliste à La Croix, bonjour.
Bonjour Marie.
Anna Sigalevitch, journaliste et autrice, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
Merci.
Iphigénie, fille d'Agamemnon, est donc en Tauride, loin des siens. C'est la fin de la saga sanglante et meurtrière des Atrides. Après avoir échappé à un sacrifice, elle devient à son tour bourreau, chargée de tuer tout étranger qui débarquerait sur le rivage. Or, un jour, un de ses condamnés lui rappelle son frère. Au reste, le metteur en scène Wajdi Mouawad s'empare du mythe avec la conscience douloureuse que rares sont ceux qui le connaissent encore et peuvent en comprendre la portée. C'est pourquoi il a ajouté un prologue. Les chefs Louis Langré et Théotime Langlois de Schwartz dirigent l'orchestre, le consort et le chœur, les éléments. On commence avec quelques mots rapides d'introduction, Anna Sigalevitch.
Alors la première était hier, donc c'est encore tout frais. Ce que je retiens avant tout, c'est l'exceptionnelle vitalité de cet orchestre. Vraiment, je dois dire que j'ai été saisie par l'intensité, les couleurs, les contrastes et la grande précision de ce qui se passait dans la fosse. Mmh. Il y a énormément de théâtre, et ce de bout en bout, avec une vraie cohérence entre l'énergie de la fosse et l'énergie scénique. C'est vrai qu'on a toujours tendance à commencer par la vision du metteur en scène, tout ça. Et là, je dois dire que, en tout cas, moins de 24 heures après la fin de cette première, c'est très porté et nourri par cette exception musicale que j'ai envie de commencer par ça.
Eh bien, on commencera par ça, mais d'abord, je passe la parole en quelques mots à Emmanuel Giuliani. Mais
je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai ressenti aussi que vraiment la force dramatique, la puissance, la flamme venait vraiment de la fosse et d'une partie du plateau et des chœurs. J'ai trouvé les chœurs, les éléments, on y reviendra, absolument remarquables, vraiment. Et comme on en avait parlé à ce même micro pour Faust de Gounod, vraiment les affinités entre Louis Langré et l'opéra français, qu'il soit de l'époque baroque, classique, comme ici ou postérieure, voilà, se confirme de production en production.
Parce que là, vous avez vu la version dirigée par Louis Langré.
Par Louis Langré, absolument, voilà. Qui dirige les premières et après ce sera...
Mais ce sera sûrement très bien aussi.
Oui. On écoute, avant de discuter plus en profondeur de tout cela, un extrait d'Iphigénie en Tauride, choisi par vous, Anna. L'air d'Iphigénie, l'acte 4, je t'implore et je tremble.
Oh,
Tauride, je t'implore et je tremble, Anna Sigalevitch. Pourquoi vous avez choisi cet extrait-là en particulier?
Alors, j'ai choisi cet extrait parce que déjà, on entend toute la ferveur, la fougue, l'énergie de l'orchestre. Donc, ça me semblait important d'entendre cet orchestre vrombissant. Parce qu'il faut dire vraiment que là, on est à l'acte 4 et l'énergie tient du prologue jusqu'à la fin. Sans qu'on se lasse jamais d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments beaucoup plus introspectifs, beaucoup plus lyriques, beaucoup plus piano qui sont aussi très bien joués. Il fallait quand même entendre Iphigénie, qui est Tamara Bounazou, qui est une soprano, je dois dire, que j'entends pour la première fois, dont je ne connaissais même pas l'existence, et qui est assez remarquable dans le rôle d'Iphigénie. Alors hier, à la première, dans la première partie, elle avait quelques petites nervosités, je dirais, on sentait un petit trac, mais qui s'est beaucoup dissipé dans la deuxième partie, avec une énergie que je trouve extrêmement franche, extrêmement directe, beaucoup d'intensité et de charisme en scène, et les moments piano quand elle chante mezza voce, absolument magnifique, de profondeur, de sobriété et d'intelligence musicale. Donc j'ai été très emportée par cette chanteuse. Donc là, on entend bien la chanteuse et bien l'orchestre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moment. Alors, pour maintenant peut-être rentrer un peu plus en détail dans ce qui se passe, comme vous le disiez, Marie, au moment de l'ouverture, il y a en effet un texte qui s'affiche avec la musique. Hein. C'est ce qu'il avait déjà fait pour Oedipe, qu'il avait monté à l'Opéra Bastille il y a quelques années. Oedipe d'Enesco. Alors pour Oedipe, c'était en silence. Là, c'est vraiment, ça va avec la musique. Donc il nous explique effectivement que Iphigénie est arrivée en Tauride, elle devait être tuée par son père Agamemnon, mais Diane l'a sauvée et l'a remplacée par une biche. Ensuite, évidemment, Clytemnestre est désespérée que sa fille ait été sacrifiée, croit-elle, donc elle tue Agamemnon, et ensuite Oreste venge la mort de son père en tuant sa mère.
Donc, la fin des Atrides. Voilà, après ça, tout ira mieux normalement.
Donc c'est quand même... Il n'y a plus grand monde.
Voilà.
Voilà. Alors moi, je dois dire que j'aime plutôt ce geste de rappeler les choses et d'essayer de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir apprécier pleinement ce qui va se jouer. Je ne trouve pas du tout ça démago ou pédagogique dans le mauvais sens du terme. Je trouve que c'est bien, que là en plus c'est bien fait, que l'iconographie... Qui s'affiche au moment de ce prologue est belle, que ça va extrêmement bien avec la musique, et on a le sentiment d'embarquer à bord d'une grande aventure qui va nous être contée, et c'est bien. Après, dans un deuxième temps, il y a une scène de théâtre qui, là, est totalement écrite par Wajdi Mouawad, qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la choucroute, parce que... Alors, si, il faut quand même que je dise quelque chose. C'est que Tauride, c'est l'actuelle Crimée.
Oui, c'est d'accord. Ça.
Voilà, ça c'est important. Donc, Wajdi Mouawad a écrit une scène de théâtre, hein, totalement, où on voit en fait Oreste et Pylade habillés en costume d'aujourd'hui dans un musée en Crimée, et on est face à un tableau qui représente donc Iphigénie avec une biche, un tableau, je décris un peu parce que c'est quand même important, ça prend un peu de temps, mais je vais essayer d'aller vite. Il y a du sang, il y a des poches de sang, on comprend que ces poches de sang sont celles des combattants morts au front, et là, Thoas, qui est le gardien donc du temple de Diane, lui représente en fait le Russe qui est soumis aux ordres, et il y a un conflit donc entre les Grecs qui viennent au musée pour récupérer des statues et lui qui ne veut pas les donner. Donc on comprend qu'on est dans l'actualité, on parle de dénazification de la Crimée, on parle de restitution des œuvres volées, etc. Il y a cette scène de théâtre, et c'est après que ça commence. Voilà, j'arrête de parler, parce que sinon je vais prendre je voulais quand même décrire cette scène qui est importante.
Qui vient juste après le prologue. Emmanuel Giuliani, pour revenir sur l'orchestre,
oui,
pour lequel toutes les deux vous avez eu vraiment un émerveillement, on va dire. Oui.
Donc c'est le consort, qui, comme l'a dit Anna, et comme vous l'avez rappelé, va être dirigé donc pour les premières représentations par Louis Langrée, et après par Théotime Langlois de Swart, qui est vraiment un des habituels animateurs de ce très bon orchestre baroque qui fait partie de cette famille des ensembles sur instruments anciens français que maintenant le monde nous envie, on peut le dire, parce que vraiment c'est absolument remarquable, comme l'a dit Anna, de couleur, d'énergie sans brutalité, ce qui n'est pas facile dans l'acoustique, on le dit régulièrement à ce micro, très présente, voire un peu saturée, parfois de la salle Favart, et comme le geste de Louis Langré, qui est très, vraiment, qui comme un sculpteur, mais c'est pas le marbre là, c'est l'argile, enfin c'est, voilà, plonge ses mains dans la matière orchestrale pour en ressortir et des éclats et des moments beaucoup plus oniriques, rêveurs, voire élégiaques. Ils sont rares, mais ils sont très importants et très présents. C'est vrai qu'on est emporté par une lave, et je pense que l'accueil extrêmement immédiatement, l'ovation à la tombée du rideau, à la fin de l'ouvrage, viennent aussi d'une expression du public, d'un trop-plein d'émotions musicales qu'il faut rendre, comme si on avait reçu, c'est ça, un volcan musical, et qu'il faut soi-même expurger un peu toute cette émotion.
Et le chœur, les éléments alors, on n'est pas revenu dessus encore.
Ah, c'est magnifique. Les femmes sont plus sollicitées en tant que prêtresses de Diane et suivantes d'Iphigénie que les hommes. Mais quand les messieurs sont là, ils sont aussi très bien. Et bah, tout ce qu'on aime dans des chœurs, c'est-à-dire des nuances, une homogénéité vocale et une fraîcheur vocale. On n'entend pas ici un vibrato, un timbre qui sort. Beaucoup de poésie dans la manière dont elles accompagnent, elles entourent et elles essayent d'adoucir le sort de cette malheureuse Iphigénie. Elle le dit elle-même, hein. Malheureuse Iphigénie, c'est sûr que sa vie n'a pas été facile. Et vraiment, c'est exemplaire. Et comme les chœurs d'opéra, souvent, c'est là où ça peut un peu pêcher. Là, véritablement, je trouve qu'il faut souligner leur haute qualité.
Alors, venons-en à la mise en scène. Anna Sigalevitch, la mise en scène de Wajdi Mouawad.
Alors voilà, donc j'ai pris un peu de temps pour décrire cette première scène de théâtre parce que c'est le geste un peu théâtral et la proposition de mise en scène. Moi, je suis partante pour toutes les aventures, il y a aucun problème. Je suis pour tordre les livrets, tout ça. Bon, là, la limite de l'exercice, c'est qu'il y a cette scène, mais après. Il n'en tire pas vraiment les fils. C'est une proposition qui ne développe pas. Alors peut-être que ça aurait été lourd de la développer. Hein. Mm-hmm. C'est possible.
C'est-à-dire de calquer complètement l'action sur l'actuelle Ukraine, par exemple.
Voilà, par exemple. Mais bon, alors là, le problème, c'est que. Alors, je pense que l'intention. C'est de nous mettre d'abord, de nous confronter au réel comme une décharge comme ça de réalité avant de nous faire entrer donc dans la mythologie, dans l'histoire et dans cette guerre et de cette épopée des Atrides. Pourquoi pas, mais ça ne joue pas véritablement. Ça ressurgit un tout petit peu à la fin que je ne dévoilerai pas, mais qui est une façon un peu de clore son histoire de façon réconciliatrice, je trouve un petit peu naïve. Voilà. Et après, pour le reste, c'est une mise en scène qui repose plus, à mon sens, sur l'énergie et sur la fougue que sur l'envie de raconter cette histoire avec clarté que sur quelque chose de vraiment fouillé, de travailler sur la psychologie des personnages et sur l'histoire qui se raconte. Alors on a un décor qui est un grand décor noir, un peu nervuré. On pourrait être dans un port, on pourrait être en prison, on pourrait être à l'intérieur d'un corps humain avec cette bile, cette noirceur qu'il y a au fond des êtres, pas inintéressant. Il y a un grand panneau réfléchissant avec du sang étalé comme de la peinture. Ce sang, ce sera vraiment la toile de fond au sens propre et au sens figuré de tout ce qui va se jouer. Et après, finalement, l'histoire va se raconter de façon assez classique, dont moi je dirais je n'ai pas vu de réelle vision personnelle ou de proposition réellement originale.
Emmanuel voilà. Giuliani.
Oui, moi vraiment, la mise en scène ne m'a pas convaincue. Alors, l'idée, en effet, pendant l'ouverture, de rappeler un peu cette histoire, et en effet, le mythe resitué, pourquoi Iphigénie se trouve en Tauride, est-on avant, après tous les cataclysmes, parce qu'on se rappelle que son sacrifice était pour que les bateaux grecs puissent partir à Troie. Voilà, donc loin en arrière. Pourquoi pas ? Moi, j'ai trouvé, ça m'a rappelé un peu, quand j'allais avec ma grand-mère, il y a très longtemps, connaissance des arts, connaissance du monde, salle Pleyel, on avait des documentaires ou un conférencier, puis il projetait quelques diapos. Là, elles sont, il n'y a pas de diapos à l'envers, elles sont toutes à l'endroit. Souvent, il y avait une diapo à l'envers dans le lot. J'ai trouvé que ça faisait quand même très, très patronage, la partie projection, tant les textes que les images, elles sont belles, mais ça fait vraiment découper dans le Lagard des Michards. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas esthétiquement réussi. Après le prologue, c'est-à-dire la tentation est trop forte, la Tauride, c'est la Crimée. Donc, ce qui serait courageux, c'est de ne pas s'en saisir. Là, évidemment, c'est tellement, tellement tentant. Donc je trouve qu'il tombe dans le panneau. En effet, comme vous l'avez dit Anna, pour sauf un twist final en forme de restitution de biens culturels spoliés, boucle la boucle. Mais en plus, les chanteurs sont bien, mais ce sont pas des acteurs, donc c'est maladroitement fait. Et après, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de mise en scène, une gestuelle très répétitive, un peu pataude. Moi, je trouve que c'est quand même très, très en deçà. Dans un univers, ça c'est ma marotte, je vais dire que c'est la dernière fois que j'en parle, nocturne de A à Z. Là encore, voilà une mise en scène où il ne fera jamais jour, une de plus. J'ai trouvé ça pas beau et porteur de peu de sens. Alors qu'au début, ça nous dit, attention, les mythes, l'histoire contemporaine, vous allez voir ce que vous allez voir. Et moi, j'avoue que je trouve que la montagne accouche d'une souris.
Iphigénie en Tauride, mise en scène par Wajdi Mouawad, dirigée par Louis Langré. C'est jusqu'au 12 novembre à l'Opéra Comique. Vous venez d'entendre un extrait de l'étude pour piano numéro 9 de Philip Glass, interprété par la pianiste française Vanessa Wagner. À l'origine, les études pour piano avaient pour double but de permettre à Philip Glass d'enrichir le répertoire de ses concerts solo et puis de parfaire aussi sa technique pianistique. Aujourd'hui, au nombre de 20, elles sont une part fondamentale de l'œuvre du compositeur américain. Et Vanessa Wagner nous en offre l'intégralité dans cet enregistrement. On commence par quelques mots d'abord, Emmanuel Giuliani.
Véritablement, dans les disques de cette rentrée, les disques classiques et singulièrement les disques de piano, il y en a beaucoup et beaucoup de très intéressants et très beaux. Mais celui-ci a été un véritable coup de cœur parce qu'il c'est une forme d'aboutissement de tout le travail et toute la, j'allais dire, la militance, mais pas violente, la militance puissante et travaillée et réfléchie de Vanessa Wagner pour cette musique qui, elle le dit encore, a été et est encore un peu parfois méprisée, considérée comme sympathique, décorative et agréable à entendre, mais passé, il n'y a pas grand-chose à entendre et elle nous montre que c'est pas vrai du tout. Et puis en plus, je trouve que c'est un très bon exercice d'écoute sur l'alliage entre, en effet, une forme musicale, minimaliste, répétitive, un peu de tout ça et rien vraiment à fond de tout ça, et les exigences d'expressivité. Et je trouve qu'elle réunit parfaitement comment être rigoureux et précis dans un discours fondé sur la répétition du même, avec des changements, heureusement quand même, et la manière d'y mettre quand même de l'âme et de l'expression. Et je trouve que pour ça, l'équilibre est absolument idéal.
Anna Skelevitch.
Ah oui, moi je partage absolument le sentiment d'Emmanuel. J'ai écouté le double album un tout petit peu avant sa sortie, au mois d'octobre. J'étais très 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 emballée. Et puis là, je me suis dit que j'allais écouter des petites touches pour préparer l'émission. Eh bien non, j'ai tout réécouté. Parce que dans la longueur, c'est vraiment un voyage qu'elle nous propose où les paysages défilent, où ça change tout le temps. Et c'est dans cette musique à l'atmosphère très particulière. Il y a cette façon de vraiment de rentrer à l'intérieur de vous connecter à vous-même et de vous mettre en mouvement. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression, comme ça, bien sûr, qu'il y a un peu une apparente stagnation, quelque chose d'un peu hypnotique, on utilise le mot planant, etc. Mais c'est une musique, en fait, qui est extrêmement vitale et active. Et c'est ça qu'elle donne à entendre, je trouve, magnifiquement.
On écoute l'étude numéro 6 que vous avez choisie, Emmanuel Giuliani. Études pour piano de Philippe Glass par Vanessa Wagner et Emmanuel Giuliani. On entend bien l'âme qu'elle met, l'expressivité qu'elle met dans ce qui au départ est un exercice, effectivement.
Oui, absolument. Avec un petit rubato ici et puis l'arrivée de ces grands accords un peu rachmaninoviens. Enfin, parce que c'est ça aussi, Vanessa Wagner, c'est une pianiste qui a joué et qui joue Liszt, Schubert, Rachmaninoff, Chopin, aussi. Rachmaninoff. Et donc, elle est nourrie, et elle ne le renie pas, ô combien pas, tout ce patrimoine du grand répertoire qu'elle joue et avec beaucoup de très grandes techniques et une très grande maîtrise. Et elle en nourrit, et réciproquement, c'est vraiment un jeu d'aller-retour, elle le dit elle-même, sa conception, sa perception et son amour de cette musique, qu'elle a aussi, quand on a la chance de pouvoir parler avec elle, elle a une véritable aussi affection pour Phil Glass en tant que compositeur, en tant qu'artiste qui ne se prend pas pour le plus grand génie du monde, tout en aimant faire au mieux ce qu'il fait. Elle sait qu'il dit, par exemple, qu'il aime qu'on joue sa musique comme du Schubert, et Dieu sait qu'on n'est pas enclin immédiatement à comparer forcément cette musique américaine à Schubert. Et elle a lu, et vraiment c'est un ouvrage absolument extraordinaire, ses mémoires, le récit de sa propre vie que raconte Phil Glass, où on voit comme ça toutes les influences qui l'ont nourri, évidemment sa grande amitié et complicité artistique avec Ravi Shankar, ses études en France auprès de Nadia Boulanger, la manière dont le cinéma est aussi un aspect très important de sa carrière, et tout ça ne fait pas une espèce de pâte un peu informe et qui n'aurait pas beaucoup de caractère, mais au contraire, un sillon à la fois modeste et très singulier, très personnel. Et Vanessa Wagner nous persuade en plus à travers ce double disque, 2 fois 10 études, 20 en tout, que ça constitue véritablement une grande arche. Elle a une affection toute particulière pour la 20e et pour laquelle elle dit vraiment que tout conduit, avec des paysages, comme vous l'avez dit, Anna, et des climats contrastés, à ce qu'on aboutisse à cette 20e étude qui, en effet, est un monde en soi.
Mmh. Anna Sigalevich, justement, vous disiez que vous avez réécouté l'album entièrement parce que c'est un voyage, en fait.
Oui, c'est vraiment un voyage. On sent qu'elle prend au sérieux cette musique en l'aimant profondément, et je trouve qu'elle l'apporte avec une sensibilité et même une émotion qui est palpable. Moi, il y a vraiment certaines études qui m'ont donné les larmes aux yeux, et je dois dire vraiment de la première à la 20e. Hein, si je pense par exemple, donc là on écoutait Emmanuel la 6e étude, mm-hmm, qu'Emmanuel a choisie, qui est un peu peut-être le plus grand tube qui a été beaucoup joué par plein de pianistes d'univers différents, de Yuja Wang à Víkingur Ólafsson, en passant par des pianistes moins classiques. Et je dois dire que moi, sa version à elle, et je pense celle que je préfère, parce que il y a à la fois cette forme de rigueur, hein, on entendait la précision de l'ostinato, voilà, puis les accords qui se déploient, la justesse de la pédale aussi, c'est-à-dire qu'elle y va sans trop y aller non plus, elle se tient, et en même temps, il y a cet amour qui transparaît à chaque note et pour chaque étude. Donc ça, c'est quand même je trouve extrêmement, extrêmement beau. Et pour chaque étude, il y a des couleurs différentes qui émergent. Philippe Glass adore Schubert. Il y a quand même c'est la 16e étude, voilà aussi une mélancolie comme ça, très schubertienne, une tendresse qu'elle fait passer dans sa façon d'effleurer le clavier, avec ce son qui se dématérialise peu à peu, c'est la musique qui disparaît. Enfin, il y a incroyablement de variété dans sa façon de jouer ça, et cette vitalité. Alors, vous voyez, la musique de Figla, je pense qu'on peut la jouer de plein de façons différentes. Par exemple, lui, il a enregistré les 10 premières études, pas les 10 suivantes, mais les 10 premières, qui sont beaucoup plus... Il y a quelque chose de beaucoup plus brut, de quelque chose de beaucoup plus presque raide dans le toucher, de plus laborieux. Enfin, on sent pour le coup le côté...
Étude, travail,
etc. Et elle s'affranchit de ça avec une beauté sonore, avec un toucher et en même temps une précision rythmique aussi, hein, parce que ce qui compte beaucoup chez Glass, c'est les dynamiques, et elle tient tout ça avec beaucoup de grâce, parce que il y a une élégance en fait dans la façon dont elle nous sert ça, et beaucoup de générosité.
Emmanuel Julien, il nous reste plus de temps.
Juste pour citer dans le livret, Vanessa Wagner fait un petit texte, et elle parle de beaucoup de choses, et elle dit notamment le tumulte des nuances. Et je trouve que c'est une très belle expression, parce que le tumulte des nuances, on l'attend tout à fait dans les nuances amples et fortées, mais elle ne s'évanouit pas, elle ne devient pas molle ou fuligineuse dans les nuances douces. Il reste cette idée de la pulsation et d'un tumulte intérieur. Et vraiment, on n'associe pas forcément, encore une fois, ça à cette musique, qu'on peut penser un peu automatique, et pas du tout. Voilà, c'est un disque qui n'a aucun automatisme, qui est vraiment de la personnalité et de la singularité en permanence, servi par une superbe prise de son. Et ça compte beaucoup. Et vraiment, moi, je terminerai bien par ce tumulte des nuances qui est véritablement une des marques de ce très très beau disque.
Eh bien, ça marche. On va rester sur le tumulte des nuances, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, Anna aussi.
Absolument.
Également. Et je précise que Vanessa Wagner, vous avez de la chance, à Nantes, elle sera en concert le 7 novembre prochain au lieu unique. Philippe Glass, The Complete Piano Étude, est sorti chez, disponible d'ailleurs chez Infine. Merci beaucoup Emmanuel Giuliani, Anna Sigalevitch, d'être venue dans les Midis de Culture. Je vous souhaite une très belle semaine. Et vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Vous retrouvez évidemment toutes les références de ces deux objets sur la page des Midis de Culture.